Tout se joue avec le comme dans cette cinquième demande du Notre Père que nous méditons grâce à Romano Guardini. Il est très libre, ce Père Guardini. Et en fait, parfois, il va utiliser le comme et il va montrer l'articulation. Remets-nous nos dettes comme nous remettons à nos débiteurs. Et à d'autres moments, il va comme ignorer ce comme. Vous vous en souvenez, et il va pratiquement faire deux demandes distinctes. Tout s'enracine aussi dans le donne du début. Donne-nous aujourd'hui. Père, Père de nous, donne-nous, donne-nous. Alors donne-nous le pardon et finalement donne-nous de pardonner. Ce sont les deux demandes qui sont ici. Alors pour faire droit à ce fameux comme, il y a un petit commentaire de Romano Guardini. La deuxième phrase nous dit que le pardon de Dieu est lié à celui que nous devons accorder à nos frères. Le pardon infini de Dieu, le pardon très efficace, très fécond de Dieu, cette fécondité en nous du pardon divin est liée au pardon que nous accordons à notre tour. Le lien est très étroit entre ces deux pardons. C'est comme si nous disions au Père éternel, pardonne-moi Père, car moi aussi je pardonnerai. Vous voyez qu'encore une fois, Romano Guardini nous propose la liberté de passer du nous au je, y compris de nous dire que dans la prière personnelle, non pas la prière communautaire ou liturgique, mais personnelle, il y a une sorte d'autorisation qui nous est donnée par le Seigneur de personnaliser totalement ce Notre Père. Pour dire, pardonne-moi mes offenses comme je veux pardonner à ceux qui m'ont offensé. C'est pour donner encore plus de prise à la prière dans notre cœur. Pardonne-moi, Père, car moi aussi, je pardonnerai. On est dans l'ordre de la promesse, et c'est très sage de la part de Romano Guardini, de mettre ce futur en disant, en fait, le pardon de Dieu n'est pas conditionné au pardon que nous avons donné nous-mêmes, mais il est conditionné à une promesse. C'est une interprétation, vous pouvez tous la contester autant que vous voulez, parce que c'est celle d'un théologien parmi d'autres, d'un spirituel parmi d'autres, mais c'est une belle interprétation. On est dans cette catégorie du futur. Pardonne-moi aujourd'hui parce que je te promets de me mettre à pardonner. Il y a une ressemblance avec notre acte de contrition pendant la célébration du sacrement de la pénitence. Je prends la ferme résolution de ne plus t'offenser et de faire pénitence. À l'avenir, je prends la ferme résolution, tout de suite, pendant que je suis en état de contrition pour recevoir l'absolution, la résolution par rapport à l'avenir, qui n'est pas tout à fait une promesse, c'est une résolution. Nous savons qu'il y a des résolutions que nous ne tiendrons pas. Comment est-il possible de dire que nous n'aurons plus jamais une parole de critique jusqu'à notre dernier souffle? Et pourtant, nous demandons pardon pour nos critiques fondées ou non fondées, que nous n'avions pas à publier. Nous demandons pardon. Et nous prenons la résolution avec sincérité. Nous prenons la résolution en étant réaliste et en disant oui, je suis sincère, même si la probabilité que je pêche à nouveau de ce péché précis est très très élevée. Donc, pardonne-moi, car moi aussi, je pardonnerai autant que possible. Peut-être le lien est-il encore plus profond encore si nous prenons le mot comme, vous voyez que tout se joue avec le comme, si nous prenons le mot comme absolument au sérieux. Alors, la phrase est puissante, hein, absolument au sérieux. Car alors la phrase veut dire, pardonne-nous autant que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et de la même manière. Mais cela est très redoutable si nous nous engageons dans cette interprétation dont Romano Guardini nous dit qu'elle est absolument sérieuse. Et le texte de saint Matthieu vient accentuer encore davantage, nous nous en souvenons, remets-nous autant nos dettes que nous avons déjà remis leurs dettes à nos débiteurs. Nous demandons au Seigneur, d'une certaine manière, de nous mettre un peu la pression. Alors, est-ce que c'est fécond pour chacun d'entre nous? Chaque âme est tellement différente de toutes les autres âmes qu'il y a forcément une pédagogie du Seigneur adaptée à chaque personne. Mais globalement, cette forme d'exigence remplie d'amour peut être extrêmement efficace. Dans la parabole que nous avons déjà évoquée pour éclairer le Notre Père, cette parabole qui est une sorte d'explication du Notre Père. Le Christ Seigneur dit expressément, comme le roi a agi à l'égard du serviteur impitoyable à qui a été remise son énorme dette et qui a refusé de remettre la petite dette à son compagnon, c'est ainsi que vous traitera mon Père céleste si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond de son cœur. Et ce qui retient toute l'attention de Romano Guardini, c'est le fond de son cœur. Pardonner du tréfonds de son cœur. Si nous examinons ces paroles, nous constatons qu'elles renforcent encore l'exigence, car elles disent que celui qui adresse cette demande dans le Notre Père doit pardonner du fond de son cœur s'il veut obtenir le pardon pour lui-même. Et cette évocation du pardon du fond de son cœur est là pour éclairer notre propre conscience, pour rendre plus sensible, plus fine notre conscience morale. Celui qui veut obtenir un tel pardon, on pourrait appeler le pardon plénier, le pardon complètement efficace, si vous voulez, de la part du Seigneur. Celui qui veut obtenir ce pardon doit parcourir un très long chemin vers l'intérieur de lui-même, car chacun de nos cœurs possède une très très grande profondeur. Lorsque la Bible parle de l'abîme, notre cœur est un abîme, elle veut vraiment exprimer cela. Notre cœur est un profond abîme, dans lequel, bien souvent, nous ne voulons pas descendre seuls. C'est une des légitimations de l'accompagnement spirituel, de la paternité spirituelle. Notre cœur a une telle profondeur que nous ne savons pas quand nous parvenons au fond de notre cœur. Aussi bien, notre cœur est plein de ruses et il peut dire, parfois, cela, je le pardonne, mais personne ne peut me demander de pardonner davantage. Donc, je refuse d'aller jusqu'au fond et je décide à quelle profondeur j'arrête mon pardon. Je décide d'une façon extrêmement autonome et arbitraire que j'ai suffisamment pardonné. Nous savons que nous allons arriver à la fameuse question de Saint-Pierre qui va revenir, combien de fois dois-je pardonner, qui peut s'interpréter d'une autre façon, non pas combien de fois, mais jusqu'à quelle profondeur de mon âme dois-je pardonner, Seigneur. Mon cœur est plein de ruses. Il peut dire, je pardonne, mais sans être totalement conscient de ce que cela veut dire, et être conscient qu'il est en train d'attendre une occasion où sa rancune pourra éclater à nouveau. Autre chose est d'estimer une probabilité pour que la rancune revienne, et autre chose est d'attendre l'occasion, de s'illusionner sur le pardon que nous avons donné. C'est extrêmement concret, extrêmement vrai Parmi les illusions de la vie spirituelle, il y a souvent une illusion au sujet du pardon que nous aurions donné. Alors qu'en fait, nous n'avons pas encore pardonné, et encore moins pardonné du fond de son cœur, du plus profond de notre cœur. Ou bien il y a encore un autre pardon qui n'est pas un vrai pardon, qui est le passage simplement de la haine au mépris intérieur. Oui, toute la Bible et les psaumes d'une façon peut-être très particulière et encore plus fréquente, parce que normalement nous avons un contact avec les psaumes plus fréquent qu'avec le reste de l'Ancien Testament, toute la Bible nous dit que nous sommes capables de haine. Et celui qui dit qu'il est incapable de haïr qui que ce soit est très probablement dans l'illusion sur lui-même. Et lorsque nous passons de la haine à ce que nous pourrions oser appeler le simple mépris, nous disons j'ai pardonné. Alors que le mépris est vraiment un des péchés les plus graves qui existent. Mépriser un seul de ces petits pour lequel le Christ a versé son sang sur la croix, nous dit l'apôtre. Ce passage de la haine chimiquement pure au mépris ne peut être accepté par le Seigneur. Le Seigneur nous invite à descendre jusqu'au plus profond et à descendre dans le pardon, à aller vers le pardon. Il en va ainsi de degré en degré pour remonter, si on veut, depuis le pardon du plus profond de notre cœur, qui est l'objectif ultime, à ces pardons de plus en plus dégradés, de plus en plus appauvris, jusque tout en haut. Le pardon totalement superficiel. Ce qu'on pourrait appeler, ce que Romano Guardini va appeler le pardon mondain. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a voulu nous dire, tu dois pardonner du fond de ton cœur. De ce fond de ton cœur, en dessous duquel il n'y a plus rien. Voilà. En dessous du fond du cœur, c'est le néant parce qu'on est sorti du cœur, on est sorti de notre âme. Donc on est allé vraiment jusqu'au fond du fond et après, d'une certaine manière, c'est autre chose, ce n'est plus nous et le plus profond du plus profond a été assaini, un peu comme on cure un étang, il a été totalement assaini jusqu'en sa plus grande profondeur et on ne peut pas aller au-delà. Et c'est la joie parfaite, parce que le Seigneur a pu accorder cette plénitude du pardon, et du pardon offert, du pardon vraiment communiqué à celui qui nous a offensés. Si nous méditons, nous avons le droit dans la prière de méditer de temps en temps sur le pardon, bien sûr, rien de plus beau que de méditer sur le Seigneur, sur la Trinité, sur le Seigneur Jésus, le Verbe incarné ou la très sainte Vierge Marie, mais de temps en temps, nous pouvons bien méditer sur des réalités moins élevées comme celle du pardon et du pardon que nous-mêmes nous accordons. Donc si nous nous mettons à méditer sur un sujet comme celui-ci, nous voyons que cette disposition d'esprit que nous sommes tenus d'avoir envers notre frère pour lequel le Christ a versé son sang sur la croix, cette disposition d'esprit doit déterminer toute notre existence. Nous devons être des êtres de pardon, à l'image du Père éternel, du Père des miséricordes. Cette parabole au sujet du fond du cœur a donc répondu à la question de Saint Pierre, Seigneur, si mon frère pèche contre moi, combien de fois dois-je pardonner? Jusqu'à 7 fois. 70 fois 7 fois, c'est un chiffre qui, comme celui des 10 000 talents de l'autre parabole, dépasse le calcul. L'image qui est derrière, c'est cela. Ça dépasse tout calcul. Alors, dans le sens mathématique, mais dans le sens aussi du mauvais calcul, du calcul qui est un peu pervers, du calcul qui manque de limpidité, qui manque de simplicité. On doit sans cesse pardonner, et le pardon doit devenir, avec la grâce de Dieu, une attitude constante de ce fameux fond de notre cœur. Nous vivons du pardon de Dieu, de la rédemption, qui est appliquée à chacun d'entre nous d'une manière très particulière par les sacrements, avec en premier le sacrement du baptême. Notre rapport avec le prochain doit être lui aussi déterminé par le pardon. Notre rapport avec Dieu est forcément un rapport de pardon. Depuis le péché originel, c'est le lot de toute la création. Notre rapport avec le prochain est déterminé par le pardon et par l'attitude de pardon. Nous allons reprendre, si vous le voulez bien, l'exemple qu'avait sélectionné Romano Guardini dans la précédente méditation, parce que c'est un exemple qui lui tient tellement à cœur que lui-même nous le propose un grand nombre de fois dans ses écrits spirituels, dans ses méditations spirituelles. Cet exemple, c'est celui de l'amitié. Nous retrouvons la filiation de Romano Guardini à la fois à l'égard de saint Augustin, au sujet de l'amitié, et à l'égard de saint Thomas d'Aquin, qui parle tant de l'amitié et des formes les plus parfaites de l'amitié. Deux amis. Voici deux amis. De vrais amis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas seulement de la sympathie l'un pour l'autre ou des intérêts communs, mais qu'il existe entre eux cette communion spontanée avec l'autre qui seule fait l'amitié, la véritable amitié, la communion spontanée avec l'autre. Une telle amitié, qui si nous voulons, est l'amitié proche de la perfection, celle dont parlent les livres de la sagesse de l'Ancien Testament pour nous dire que avoir un tel ami dans sa vie, c'est déjà une grande grâce. Celui qui a reçu de Dieu un seul ami dans cette catégorie-là, c'est un bonheur, c'est un don divin pour lequel il faut rendre grâce chaque jour. Eh bien, une telle amitié a nécessairement une histoire, une croissance, des dangers et des crises. Sinon, nous sommes au paradis, nous ne sommes plus dans une amitié terrestre. Et cela, toutes ces réalités existent d'autant plus que cette amitié est davantage vivante, qu'elle est davantage enracinée dans chacune des deux âmes qui se sont rapprochées par cette amitié. Les deux amis sont d'autant plus proches que cette amitié est vivante et que ces personnes sont vivantes. Ce que fait l'un touche plus directement l'autre, qui est de ce fait d'autant plus exposé à ce que son ami est en train de vivre. Eh bien, dans cette grande sensibilité qui est inhérente à une amitié forte, à une amitié profonde, des injustices entre les amis peuvent facilement être commises. On peut dire que c'est la rançon de l'amitié. Et c'est alors que se décide, comme nous l'avons déjà vu dans au moins deux livres de Romano Guardini, dans son explication, c'est alors que se décide si la relation est en péril, ou même si elle se brise, ou bien si celui à qui l'on a fait du tort a la force d'entrer jusqu'au fond de l'amitié et à partir de là de rénover l'amitié. Il y a une croisée des chemins. Ce qui était auparavant ne se laisse pas simplement rétablir dans l'état initial. Si l'attachement entre ces deux amis doit demeurer vivant, il doit s'intensifier. Il doit devenir plus intense véritablement. Alors, tout cela peut être transposé facilement dans notre relation avec le Seigneur, avec toutes les adaptations nécessaires, parce que il s'agit du Seigneur en personne. Mais nous le comprenons davantage grâce à cette transposition, parce que nous sommes face à un pardon créateur. Le pardon de Dieu est un pardon absolument créateur, et lorsque le pardon de Dieu nous rejoint, l'amitié avec Dieu est recréée et créée dans la toute-puissance de Dieu. D'une manière analogique, d'une manière semblable, cela se passe entre deux amis dans l'humanité. Romano Guardini va aller un cran plus loin et ça va être très éclairant, puisque nous sommes toujours en train d'essayer de comprendre ce fameux donne-moi de pardonner à ceux ou à celui qui m'a offensé. Donne-moi de pardonner à celui qui m'a offensé, parce que c'est le mystère de l'amitié qui est en jeu. Et si je pardonne, mon pardon devient créateur, et l'amour d'amitié que je vivais jusqu'à présent devient plus fort, devient plus intense, plus profond, et on peut dire plus éternel. Il y a du pardon, même quand il n'y a pas d'offense. Voilà ce que nous propose Romano Guardini. En amitié, il faut du pardon, même lorsqu'il n'y a pas d'offense. Quand il n'y a pas de véritable offense, de tort à proprement dit, n'arrive-t-il pas dans notre amitié qu'en certaines périodes, l'un des deux porte sur les nerfs de l'autre simplement parce qu'il est tel qu'il est? Nous sommes fatigués de l'autre, même s'il n'y a aucun tort, aucune offense. Je n'ai pas créé mon ami. Je ne l'ai pas fait sortir du néant avec toutes les qualités que j'aurais voulu qu'il ait. J'ai rencontré mon ami. Et à ce moment-là, je l'ai accepté tel qu'il est. Parmi les traits de nature de mon ami, il y en a certains qui sont proches de moi et d'autres qui me sont étrangers et même profondément étrangers. Et nous savons par expérience que ce qui est étranger peut attirer, peut séduire profondément. Mais ce qui est étranger peut aussi avoir un effet déconcertant, gênant et peut-être rebutant. Et ce qui est étranger à ce fameux tréfonds de mon âme dont nous parlions doit être sans cesse surmonté. Il faut pardonner à mon ami d'être tel qu'il est. Pour que l'amitié non seulement demeure entre lui et moi, mais qu'elle grandisse. Et c'est là une nécessité, parce que les choses vivantes, pas seulement les choses surnaturelles et spirituelles, mais les choses vivantes ne sont pas immobiles. Si elles n'augmentent pas, elles diminuent. Quelle audace de la part du père Guardini que de transposer cette loi, cet adage universel de la vie spirituelle, que ceux qui ne croient pas commencent déjà à diminuer. Dans la vie spirituelle, celui qui n'avance pas se met à reculer. Et voilà qu'il nous dit, eh bien, dans l'amitié, ce pardon sans faute est indispensable pour que cette amitié puisse augmenter et ainsi ne pas commencer à diminuer. Sans cesse, je dois accepter mon ami 70 fois cette fois. De même que Dieu remet 10 000 talents, je dois remettre 10 000 talents à mon ami. Et le pardon doit être permanent. Alors cela renvoie à une autre Méditation de Romano Guardini sur Dieu lui-même, qui est vraiment extrêmement profonde. La fatigue n'existe pas en Dieu. Dieu n'est pas fatigué de lui-même, il n'est jamais fatigué de lui-même et il n'est jamais fatigué par nous. Et il y a une sorte de preuve existentielle de cette absence de fatigue en Dieu, qui pourtant est tellement en rapport avec la plus grande métaphysique, avec la connaissance de Dieu par la raison qui va jusqu'au bout de ses capacités, une espèce de preuve chez les très grands saints. Tout se passe comme si Dieu leur communiquait cette absence de fatigue. Nous sommes très frappés dans la vie des plus grands saints de remarquer qu'il semble qu'il n'y a pas de fatigue chez eux. Ils ont été capables de faire des choses immenses, et même si à la fin de leur vie, c'est finalement la fatigue qui leur fait quitter cette vie terrestre, merveilleusement, ils arrivent à se mettre au service d'autrui. Bien sûr, on pense au curé d'Ars au confessionnal, 15 heures par jour au confessionnal, sans cette fatigue qui tout simplement empêcherait de continuer. 2 heures de confessionnal ou 3 heures de confessionnal, c'est déjà inaccessible si l'on veut vraiment rester totalement attentif et écoutant avec tous ceux qui se présentent. 15 heures de confessionnal par jour, toute l'année, le Seigneur communiquait cette absence de fatigue qui est une des caractéristiques de l'essence divine. Dieu ne se fatigue pas de nous, mais nous, hélas, pauvres créatures et créatures marquées par le péché, nous nous fatiguons même de nos amis. Et il faut le pardon. Il faut pardonner à l'autre simplement ce qu'il est, qu'il soit autre et qu'il soit qui il est, pour que l'amitié puisse durer et grandir. Autre exemple que nous attendions, bien sûr, le mariage. Romano Guardini, peut-être vous en souvenez-vous, a beaucoup parlé du mariage à tous ces jeunes étudiants, à tous ces jeunes professionnels dont il s'est occupé pendant des décennies. Qu'y a-t-il de plus important que de préparer au mariage, dès l'adolescence, tous ceux qui nous entourent, de pouvoir participer à leur préparation au mariage. Par vocation et par état, Romano Guardini l'a fait. Dans le mariage, l'intimité est encore bien plus grande. C'est le lien entre personnes humaines dans ce qu'il a de plus vivant. Chaque union matrimoniale a son histoire et par là ses crises et ses décisions. L'amour à ses débuts voit l'autre dans un état idéal, alors qu'il est nécessaire pour que il soit capable de franchir le pas vers la communauté de vie, de découvrir l'autre tel qu'il est. Néanmoins, il reste cet enchantement des débuts. Et nous savons que cet enchantement s'atténue rapidement ou lentement, selon les histoires, et que les deux époux se voient toujours davantage tels qu'ils sont. Alors peut commencer le temps soit de l'étonnement, soit de la déception, et des susceptibilités, et des froissements. Et les choses peuvent se résumer dans ce reproche: tu es autrement que tu paraissais alors. Toi marié, tu es autrement que toi fiancé. Donc tu m'as induit en erreur. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas forcément cette volonté d'induire en erreur. Non, en vérité, c'est le moment de réaliser l'essence de l'amitié et du mariage. Cette essence du mariage qui est d'être uni à l'autre dans sa vérité, de l'accueillir tel qu'il est réellement, conscient que tout cela doit être réciproque. Le mariage peut être qualifié d'amitié à cause de cette réciprocité. il y a cet aspect d'amitié parce que tout doit être réciproque. Eh bien, il faut pardonner à l'autre de ne pas être tel que je voudrais qu'il soit. Il faut lui pardonner cela. Donc lui pardonner, encore une fois, autre chose qu'une offense, autre chose qu'un péché, autre chose qu'une malveillance. Sans cet état d'esprit, aucun mariage ne peut être une réussite. Et quand cet état d'esprit de pardonner à l'autre qui il est, quand cet état d'esprit fait défaut, alors vient une sorte d'amertume qui vient ronger de plus en plus profondément les personnes et qui détruit tout, même ce qui est le plus beau. Bien sûr, les fautes véritables doivent aussi être pardonnées. Pensons simplement aux négligences, au manque de tact qui se présentent si facilement dans la vie commune. Le mariage est la plus proche intimité. Et non seulement aux heures d'événements importants, décisifs, immenses, qui font de l'intimité un bonheur, mais aussi dans la vie quotidienne avec sa routine et ses mécontentements. Cette intimité expose les époux au risque de penser qu'une telle intimité dispenserait de tous les ménagements sans lesquels les relations humaines deviennent intolérables. Ménager l'autre. Donc le tact, donc l'attention. Et pardonner ce manque de ménagement. Cela, évidemment, doit se faire. Pas seulement pardonner à l'autre qui il est, mais pardonner aussi ses fautes. Cela semble tellement évident. On peut dire que le tact et la politesse sont ce qui rend l'union possible. Une politesse, dans son sens le plus noble du mot, qui a pour origine la chaleur et la compréhension de l'amour, et non pas la froide politesse qui règne entre des étrangers. Mais qu'en est-il dans la réalité concrète? Eh bien, des choses blessantes se produisent nécessairement en permanence. Voilà pourquoi il faut pardonner aussi, pardonner cela. Il faut continuellement pardonner si nous acceptons qu'il faut à la fois pardonner ce qui n'est pas faute et pardonner ce qui est faute. On multiplie comme par deux le rayonnement du pardon et le champ d'action du pardon. Il faut pardonner dans une bonne disposition afin que ce qui est nuisible ne s'accumule pas sans cesse et ne conduise pas à des crises. Ce que nous dit Romano Guardini est extrêmement banal, si nous voulons, mais nous sortons de cette banalité si nous acceptons que les deux pardons doivent coexister. Et ainsi, nous voyons les dimensions du pardon dans cette vie d'amitié particulière qu'est la vie du mariage. Des offenses menacent l'amour. Et à cause des offenses qui menacent l'amour, et plus que des offenses, comme l'infidélité, par exemple, il faut prendre des décisions. Et c'est le pardon et l'aptitude à pardonner qui va permettre de prendre la décision de rester ensemble, prendre la décision de continuer la vie conjugale. Il faut créer, grâce au pardon, nous dit Romano Guardini, un nouveau commencement. Ce qui est tellement essentiel, tellement proche du divin dans la vie du mariage, notre auteur nous dit qu'il en est de même pour toutes les relations humaines. Que ce que nous voyons très très clairement au sujet du mariage, nous sommes invités à le transposer dans toutes les relations humaines et même au-delà de l'amitié dans des relations beaucoup moins élevées que celles de l'amitié. Aucune relation humaine ne peut prétendre être une réussite humaine si on n'est pas disposé à prendre l'autre tel qu'il est et à triompher grâce à cet esprit de pardon des difficultés qui viennent tout simplement de l'altérité, que je suis autre et que l'autre est autre. Et c'est le pardon qui est la réponse à cet état de choses depuis le péché originel, que le fait que l'autre soit autre n'est plus seulement un bonheur, mais est vécu aussi comme une rivalité ou comme une limite pour ma propre existence. Pour tout cela, et c'est la conclusion, notre propre force ne suffit pas. Nous devons absolument comprendre. Quand quelqu'un dit « je ne peux pas pardonner ce que un tel m'a fait », la bonne réponse n'est pas de lui dire « tu dois, contrains-toi, fais des efforts ». La bonne réponse, c'est « le Seigneur Christ a obtenu du Père le grand pardon, le très grand pardon pour toi ». Eh bien, dans la force de ce pardon, tu vas pouvoir pratiquer ton petit pardon, que tu trouves peut-être grand, mais qui, comparé au grand pardon, est un petit pardon. Reçois la force du Christ. Et dans la prière du Notre Père, demande la force de pardonner. Donne-nous, Père, de pardonner. Donne-nous ton pardon, et en même temps que ton pardon, donne-nous la force qui sort de ton pardon. C'est dans l'union avec le Seigneur Jésus, qui a payé toute notre dette, que nous allons pouvoir remettre la dette du prochain. Sinon, le pardon risque fort d'être une parodie de pardon. Il risque d'être habileté et diplomatie. Oui, toutes les grandes attitudes qui viennent du Christ peuvent glisser dans cette profanation. Le mot est là, profanation, c'est-à-dire sortie du sacré, sortie du monde de Dieu. L'espérance peut se transformer en une confiance dans un avenir meilleur. L'humilité peut devenir simple discrétion. L'effort au service du royaume de Dieu une réalisation simplement culturelle. Eh bien, il en est de même du pardon. Si le pardon n'est plus relié au pardon du Christ, il peut devenir une simple aptitude à ignorer ce qui s'est passé. Ignorer pour que la vie en commun, que la vie commune reste possible. Le pardon, le fameux pardon de tout son cœur, dont parle le Notre Père, est bien davantage, bien autre chose que cette ignorance. Et il ne peut vivre, il ne peut se réaliser qu'à partir d'une origine, une origine sainte, une origine divine, qui est le cœur du Seigneur Jésus, le cœur transpercé du Seigneur Jésus, le lieu où le pardon est devenu humain en même temps que divin pour la première fois, le cœur du Seigneur Jésus. C'est depuis le cœur du Christ que nous recevons le pardon et la force de pardonner à notre tour, pardonner de tout notre cœur. Donne-nous ce pardon-là, Père éternel, Père infiniment bon. Donne-nous ce pardon qu'il s'implante en notre cœur comme une greffe d'organe. Nous ne pouvons pas le produire par nos propres forces, vient greffer au plus profond de notre être ce pardon divin, et nous serons dans la béatitude.